Bienvenue à BetaFinch, votre analyse d'earnings générée par intelligence artificielle. Je m'appelle Alex, et aujourd'hui, je suis rejoint par Jordan pour discuter des résultats impressionnants de BlackRock pour le deuxième trimestre 2026. Avant de commencer, je dois vous partager quelque chose d'important. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement.
Merci, Alex. Très bien. Et franchement, après avoir lu ce transcript, je comprends pourquoi tu dois donner cet avertissement, parce que BlackRock a été vraiment impressionnant ce trimestre. C'est difficile de ne pas être enthousiaste.
Absolument. Parlons des chiffres d'abord. On parle d'un trimestre record pour BlackRock. Revenu de 7,1 milliards de dollars, en hausse de 31% d'une année à l'autre. C'est significatif.
C'est énorme. Et quand tu ajoutes un revenu opérationnel en hausse de 39% et des bénéfices par action de 13,91 dollars en hausse de 15%, tu vois un portrait complet d'une entreprise vraiment en feu. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est la marge opérationnelle.
Les marges. Elles ont atteint 45,9%, ce qui représente une expansion de 260 points de base par rapport à il y a un an. C'est le niveau le plus élevé en près de 5 ans. Comment réagis-tu à ça?
Ce que je trouve fascinant, c'est que Martin Small a dit qu'il ne voit pas ça comme un plafond. Il a mentionné que BlackRock a déjà atteint près de 47% en 2021, mais sans les énormes franchises de private market qu'ils ont maintenant, sans la performance de leur stratégie systématique, sans l'échelle de leur SMA. Donc potentiellement, on pourrait voir encore plus d'expansion.
Et c'est là où ça devient intéressant pour les investisseurs. Ces marges supérieures ne sont pas juste du bruit de trimestre en trimestre. C'est structurel. Mais parlons des flux, parce que les flux d'argent sont le sang de BlackRock.
192 milliards de dollars de flux nets en second quarté. Et si tu regardes les 6 premiers mois de 2026, c'est plus que le double des 6 premiers mois de 2025. L'AUM record de 15,3 trillions de dollars te dit qu'il y a quelque chose qui se passe ici.
Et c'est diversifié. Ce ne sont pas juste les flux provenant d'une seule source. Les e-shares seuls ont enregistré 178 milliards de dollars. Les obligations ETF d'indice ont eu un trimestre record avec 61 milliards de dollars. Les ETFs actifs continuent à croître aussi.
Ce qui est intéressant, c'est que dans les trois dernières années, BlackRock est passé de 7e plus grand gestionnaire d'ETF actifs au 3e, et il vise plus haut. Ce sont les types de histoires qui attirent les clients et les argents.
Maintenant, il y a un élément vraiment intéressant qui est sorti du QA. Des questions sur la tokenisation. BlackRock a déposé des déclarations d'enregistrement auprès de la SEC pour les fonds du marché monétaire tokenisé. Qu'en penses-tu?
C'est avant-gardiste. Ils ont actuellement 110 milliards de dollars connectés aux actifs numériques, et ils visent une entreprise de 500 millions de dollars de revenus d'ici 2030. Avec 5 milliards de portefeuilles numériques dans le monde, c'est un marché totalement vierge pour eux. Les ETFs tokenisés, les fonds de trésor tokenisés, c'est là où les choses vont, je pense.
Et ils ne disent pas simplement que c'est important. Ils le font. Ils ont Buidl. Ils gèrent 60 milliards de réserves pour Circle. Ce ne sont pas des vœux pieux, c'est une exécution.
Un autre grand domaine que j'ai trouvé crucial est les private markets. 15 milliards de dollars de flux nets en private market au second quarté. 6 milliards de dollars provenant du déploiement du crédit privé, 5 milliards de l'infrastructure. Et il y a ces énormes mandats d'entreprises d'assurance.
Oui. Martin a mentionné qu'ils ont clôturé environ 10 milliards de dollars en mandats de dette de haut grade et d'infrastructure pour les compagnies d'assurance jusqu'à présent en 2026. Cela devient vraiment gros. Larry a parlé de cette conversion de 800 milliards de dollars d'actifs d'assurance qu'il gère, potentiellement convertissant 5 à 10% en private market.
C'est énorme. Tu parles de créer essentiellement de nouveaux flux de base pour ces structures d'assurance. Et avec les spreads du crédit privé élargi, ce sont d'excellentes opportunités en ce moment pour le déploiement.
Il y a aussi Aperio qui est intéressant. Ils approchent 200 milliards de dollars d'AUM, 4 fois depuis l'acquisition il y a 5 ans. Et il se concentre sur quelque chose qui ne reçoit pas assez d'attention, les portefeuilles optimisés après impôt.
C'est vrai. Mark Wiseman a fait un excellent point à ce sujet. Les clients ne paient pas pour l'éducation, la maison, la sécurité avec des rendements au niveau des classes d'actifs. Ils paient avec des dollars après impôt. C'est une structure de croissance que beaucoup de gens dans l'industrie ne priorisent pas assez.
C'est exact. Et cela ne s'applique pas seulement à la indexation directe. C'est SMA, c'est des modèles de portefeuille, c'est tout. BlackRock rentre clairement à fond dans ce domaine.
Maintenant, il y a eu une question vraiment intéressante sur les accords de distribution. Schwab et Merrill augmentent les frais de plateforme. Mais Martin a été clair, BlackRock n'a pas été approché par les principaux distributeurs concernant les péages sur les ETFs d'indice. En fait, il a dit qu'ils ont une approche de distribution qui ne comprend pas de péage.
C'est un pouvoir de négociation. Quand tu es le plus grand fournisseur d'ETF au monde, tu as du poids. Et ils apportent bien plus que juste des produits. Aladdin Welt, BlackRock Advisor Center, l'institut d'investissement de BlackRock.
Des modèles, une pensée leadership, une équipe d'insight pour les conseillers en pratique. C'est un écosystème complet. C'est difficile à remplacer, même si quelqu'un essayait de facturer des frais de plateforme.
Et puis il y a Aladdin et Preqin, une intégration très importante. La croissance des revenus technologiques était de 13%, avec une croissance ACV de 15%. Mais plus que cela, c'est sur le point de créer une plateforme analytique unifiée pour les marchés publics et privés.
C'est ambitieux. Larry a été très explicite à ce sujet. Il a dit que personne n'a vraiment livré l'intégralité des analyses qui existent sur le marché public pour le marché privé. Et c'est ce que BlackRock essaie de construire. Une plateforme où tu peux voir ton risque complet, public et privé, au même endroit.
Pensez-y comme ceci, si tu investis 100 millions dans des actifs publics et 100 millions dans du crédit privé, peux-tu vraiment comprendre ton vrai risque de portefeuille en ce moment? Pas vraiment. BlackRock essaie de résoudre ça.
C'est vrai. Et avec tout ce qui se passe dans les BDC non commercialisés et le crédit privé en ce moment, les investisseurs demandent exactement ce type de transparence. C'est un catalyseur externe pour Preqin et Euphron.
Donc, si je synthétise tout cela, tu as une entreprise avec une croissance des revenus supérieure à 30%, une expansion des marges de 260 points de base, des flux gigantesques dans presque toutes les catégories, et des initiatives stratégiques majeures qui se déploient à peine.
Et un leadership qui semble vraiment confiant dans sa trajectoire. Larry a dit qu'il n'avait jamais été plus optimiste à propos du futur de BlackRock. Après avoir lu ce transcript et vu les nombres, je pense qu'il y a une base pour cet optimisme.
Certainement. Maintenant, bien sûr, il y a toujours des risques. Les marchés peuvent se tourner. Les régulations de private market pourraient devenir plus strictes. Les frais sur les ETFs pourraient augmenter à cause de la concurrence. Mais basé sur ce que nous voyons ici, BlackRock navigue à travers ces défis relativement bien.
Et ils augmentent les rachats d'actions. Au moins 550 millions de dollars par trimestre, ce qui monte jusqu'à plus de 5,7 milliards de dollars en rendement aux actionnaires pour 2026. C'est une augmentation de 16% par rapport à 2025.
Un signal de confiance classique dans le management. Quand tu es cet confiant dans ta capacité à générer du cash, tu le rends aux actionnaires.
D'accord. Avant de conclure, je dois cependant noter que tout ce qui a été discuté ici est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable avant de prendre des décisions d'investissement.
Merci, Jordan. Donc, en résumé, BlackRock a eu un trimestre exceptionnellement fort. Les chiffres sont solides. Les stratégies se déploient. Et le futur ressemble prometteur, du moins selon ce que nous avons vu aujourd'hui. Pour les investisseurs qui suivent l'industrie des services financiers et des asset managers, c'est certainement une entreprise à surveiller de près.
Absolument. C'est un moment intéressant pour l'industrie. Merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté Beta Finch. Nous reviendrons bientôt avec une autre analyse. À bientôt.
À bientôt. Merci d'avoir écouté.